Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Deux invités remarquables aujourd'hui. L'un a dirigé l'ensemble vocal de Sherbrooke. Comme chef d'orchestre, il est apparu à la tête de l'Orchestre des Jeunes du Québec, de l'Orchestre symphonique de Montréal lors des matinées symphoniques, de l'Orchestre de chambre de la Société Radio-Canada à Québec et de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, dont il fut directeur artistique. Il a aussi publié Le geste musicien, un précis sur la direction d'orchestre. L'autre a étudié à Paris avec Maurice et Marie-Madeleine Duruflé. Depuis 1973, il est titulaire des grandes orgues de la Basilique Notre-Dame de Montréal. Un plaisir que d'accueillir Jean-François Sénard et Pierre Grandmaison. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Je présume qu'aujourd'hui, on va parler de grande musique.
De musique tout court. Pourquoi de grande musique? C'est la vraie musique, elle est grande.
Oui.
Quel que soit le style de musique.
Voilà. Et vous en êtes un artisan depuis de nombreuses années.
Une passion, oui, qui s'est révélée vers l'âge de 18 ans. Mais j'avais, au collège, chanté pendant 10 ans. J'avais chanté, soliste et tout, dans la malécanterie. Et voilà, un ami m'a dit, tu sais, tu as des bonnes idées. On aimerait ça chanter avec toi. Non, mais c'est pas moi qui ai décidé, c'est d'autres qui ont décidé pour moi. Et c'est ma vocation et ma passion depuis ce temps-là.
Et je disais dans l'introduction deux personnalités remarquables, aussi bien Pierre aux orgues que vous, Jean-François, comme chef de chœur. Vous avez marqué quand même une bonne partie de cette musique dite canadienne parce qu'elle a été interprétée par des choristes canadiens. Vous avez été à l'origine de la création de nombreux chœurs.
Bon, j'ai l'origine de la création de nombreux chœurs peut-être. Oui, alors le premier chœur, c'est le chœur Cathialine, qui était un des amis au départ. Et puis après, avec ce chœur-là, on a réussi des choses assez extraordinaires, puisqu'on a gagné un premier prix au concours de musique du Québec, ce qui n'était jamais arrivé pour une chorale d'amateurs. Et on a chanté à l'Expo, etc. Et à un moment donné, à la Société Radio-Canada, s'est présenté la possibilité d'engager des professionnels et chanteurs professionnels pour former un ensemble vocal. Et le réalisateur Gilles Poirier a dit qu'il connaissait un jeune chef, c'était moi. Et il m'a engagé, il m'a fait engager. Et donc pendant 9 ans, j'ai dirigé l'ensemble vocal de Radio-Canada, un ensemble professionnel. Voilà.
Pierre, le trouvez-vous humble? Parce que Jean-François Sénard, dans le paysage musical, c'est quand même quelqu'un d'important.
Quelle question! Non. J'ai connu Jean-François en 1972, même un peu avant, parce que lorsqu'il dirigeait Cathialine, j'ai assisté au dernier concert de Cathialine et je me rappelle, entre autres, de l'émotion qui étreignait tout le monde.
C'est gentil.
Choriste, chef et l'assemblée, oui, les gens qui étaient dans la salle. Et... oui, ben, je connais Jean-François depuis plusieurs dizaines d'années. Il est égal à lui-même, humble, mais connaissant ce qu'il doit faire.
Malheureusement, il n'habite plus ici, monsieur Sénard. Vous avez décidé de retourner en France.
De retourner, non. J'ai décidé de suivre la flamme qui s'est présentée à mon cœur à ce moment-là et qui habitait en France. Voilà.
C'est une bonne raison.
Effectivement, je ne suis pas... Je suis Québécois de cœur. Je ne suis pas Québécois pure laine. Je ne suis pas né au Québec. Je suis venu à l'âge de 9 ans. Mais j'ai fait toutes mes études et je dois tout à des professeurs et à des formateurs québécois. Donc, j'ai la sensation d'avoir eu une chance inouïe d'étudier ici et non pas en France. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas grave.
Non, mais vous avez quand même laissé une marque indélébile pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du chant choral particulièrement.
C'est-à-dire, les circonstances ont fait qu'on est venu me chercher partout. Je découvrais au fur et à mesure que je pouvais faire quelque chose, mais je n'ai jamais eu le désir de faire pour faire et me faire valoir. Donc, et j'ai continué de la même façon, même en France. Donc, ça n'a pas arrêté parce que j'étais toujours préoccupé de ce que je faisais dans le temps présent.
Vous avez évoqué le chœur Katialine. Oui. Évidemment, vous nous proposez de nombreuses pièces musicales que nous entendrons au cours de cette émission. Et la première est interprétée justement par ce chœur. Si vous nous en disiez quelques mots.
Mais c'est le Chant des oiseaux de Jeanne Quint. C'est une pièce polyphonique de virtuosité extraordinaire et une page de la musique de la Renaissance tout à fait exceptionnelle et que j'avais eu la chance de chanter quand j'étais très jeune. D'une certaine façon, hein, et ça me démangeait de la faire autrement. Et il se trouve que j'avais entendu une interprétation d'un dénommé Philippe Caillard, et qui m'a... Tout d'un coup, j'ai dit « Ah, mais ça doit être comme ça qu'il faut le faire !» Et nous avons travaillé, et nous avons appris ce chant-là, note à note, parce que mes chanteurs du chœur Katialine, au départ, n'étaient pas musiciens, ne lisaient pas la musique. Et bien, moi, j'étais à peine... étudiant en musique. Donc, on a appris tout ça par cœur. Et puis, on a osé se présenter au concours de musique du Québec. On a gagné le premier prix avec ce chant.
vient d'entendre Le Chant des oiseaux de Clément Jeannequin. Clément Jeannequin, compositeur, chanteur et prêtre français du 16e siècle, aurait reçu des leçons de musique du célèbre compositeur Josquin des Prés. Il est célèbre pour ses chansons polyphoniques, parmi lesquelles on retrouve de grandes pièces vocales descriptives, également teintées d'humour ou de poésie, dont La guerre ou La bataille de Marignan, Les cris de Paris, La chasse, Le chant de l'alouette et Le Chant des oiseaux que nous avons entendu. C'est un choix de Jean-François Sénard qui est avec nous, accompagné de Pierre Grandmaison. Ça m'amène à vous poser la question, Josquin des Prés, 16e siècle. Au plan de la musique, par exemple, d'orgue, est-ce qu'il y a de grandes œuvres provenant de cette époque?
C'est-à-dire que Josquin des Prés était surtout un compositeur pour la musique chorale. À son époque, l'orgue, tel qu'on le connaît actuellement, était naissant, je dirais. On avait des instruments. À Notre-Dame de Paris, par exemple, il y avait un instrument qu'on appelait un grand 16 pieds, avec un plénum. Mais c'était... en fait, on jouait des transcriptions de musique chorale à l'orgue. Ce n'est que plus tard qu'on a commencé à penser pour l'instrument à tuyau, sans nécessairement penser à un chœur. Donc, la musique chorale, on chantait a cappella, on chantait avec l'aide d'un serpent parfois, pour soutenir.
Qu'est-ce qu'un serpent? Parce que
qu'est-ce qu'un serpent?
Les auditeurs vont se demander ce que ça.
Le serpent. Oui. Le serpent, c'était un instrument avant. Peut-être que Jean-François pourrait le dire mieux que moi.
Ah non, tu vois pas que.
Mais c'était un serpent et qui servait à soutenir les basses, les ténors. Et il donnait souvent des notes très longues pour maintenir la tonalité. Et c'est comme ça que le chœur pouvait chanter. Alors, il y avait des notes très précises au serpent. Alors, pourquoi on l'appelle le serpent? C'est que c'est un instrument qui avait la forme d'un serpent. Okay. Alors, on soufflait et ça sortait par la bouche du serpent, mais il y avait toutes sortes de courbures, hein, comme un serpent, finalement. Et c'est pour ça qu'on appelait le serpent.
Voilà, tout à fait.
Mais on voit à quel point... entre guillemets, la technologie a pu influencer l'évolution aussi de l'écriture musicale.
Bien sûr. Oui.
Est-ce qu'il y a des points de convergence entre la musique chorale et la musique écrite pour l'orgue? Parce que je pense, par exemple, à Bach. Quand on voit, Chorale de Jean-Sébastien Bach, c'est une pièce qui est interprétée pour l'orgue, qui a été écrite pour l'orgue. Ça n'a rien à voir avec un chant a cappella, par exemple. Mais il y a sûrement des points de convergence.
Dans un premier temps, il faut penser que le chorale était un chant qui était chanté par l'Assemblée. Et qui était surtout chanté dans les églises luthériennes. C'était vraiment... Autant le chorale est à la liturgie luthérienne, ce que le chant grégorien a été à la liturgie catholique. C'était vraiment...
Parce que Bach était luthérien.
Était luthérien de la stricte observance. Attention. Bach a écrit, évidemment, beaucoup de cantates, la musique chorale, etc. Et il a écrit des chorales d'orgue basées sur la mélodie principale du chorale liturgique.
Monsieur Grandmaison, on va vous entendre dans une pièce de César Franck.
Oui.
C'est le Cantabile.
Oui, extrait des trois pièces de 1878 qui comprend donc Fantaisie en la majeure, Cantabile et pièce héroïque.
Alors voilà, on a entendu en premier lieu le chœur Katialine, maintenant c'était Pierre Grandmaison, et qui était aux grandes orgues, j'imagine, de la
Basilique Notre-Dame.
C'est un album qui a été publié il y a déjà quelques années.
En 2007, si ma mémoire est bonne, pour Atma. Et ça a été impressionnant parce que j'ai toujours été fasciné par l'œuvre d'orgue de César Franck, c'est une œuvre qui me parle beaucoup. Et les grands noms qui jouaient Franck, entre autres, les Duruflés, qui m'ont enseigné, André Marchal, qui a été pour moi... j'ai jamais connu André Marchal parce que j'étais trop jeune, mais j'avais son œuvre d'orgue enregistrée à Saint-Eustache, merveilleux.
Jean-François Sénard, qu'est-ce qui vous lie d'amitié avec Pierre Grandmaison? C'est une amitié qui date de longtemps.
Oui. Quand il est rentré de ses études à Paris, il avait étudié avec Maurice Duruflet. Et moi, à ce moment-là, je préparais un projet de monter le Requiem qu'avait écrit Maurice Duruflet avec accompagnement d'orgue. Et on m'a mis en relation plus étroite avec Pierre. Et comment dirais-je, j'ai dit ben pourquoi pas. Et voilà, donc nous nous sommes trouvés, lui à la console et moi devant lui, en train de diriger ce magnifique Requiem. Ça a été une expérience musicale qui nous a soudés pour la vie, quoi. Alors, une fois qu'on a vécu ça, c'est...
On pourra s'en reparler. On va entendre la maîtrise métropolitaine Saint-Sauveur à Traché, là où vous vivez maintenant.
Oui, l'Aix-en-Provence, oui, c'est exact. Oui. C'est le Pangelingua de Sotlan-Kodai, mais je ne m'occupais pas. C'est pas moi qui dirige. C'était un ensemble de jeunes qui chantent.
Mais c'est une région que vous connaissez très bien.
Ben, c'est ma ville. J'étais maître de chapelle de la cathédrale pendant 18 ans. Voilà.